L'envoyé en presse, Kamel Jaider.
Bonjour et bienvenue sur RFI pour cette nouvelle édition d'Orient Presse. Comme chaque samedi, nous allons passer en revue l'actualité de la semaine au Proche et au Moyen-Orient en compagnie d'une consoeur et de deux confrères. Scarlett Haddad, du quotidien libanais L'Orient de Jour, qui est en ligne de Beyrouth avec nous. Georges Malbruno, du journal Le Figaro, et Hassan Dili, de la rédaction de RMC Doualia.
Orient Presse sur RFI.
Bonjour et merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. L'actualité libanaise pour commencer, puisque nous avons le privilège d'être en ligne depuis Beyrouth avec Scarlett Haddad. On assiste à nouveau à des scènes de violence au Liban. Violence confessionnelle à Beyrouth entre musulmans chiites et chrétiens qui ont fait un mort et quatre blessés. Puis à Tripoli, dans le nord, où l'explosion d'une grenade a blessé huit personnes dans une cafétéria. Scarlett Haddad, d'abord, s'agit-il de deux simples incidents ou des prémices de quelque chose de beaucoup plus grave, d'autant plus qu'en toile de fond, l'impasse politique perdure puisque Saad Hariri n'a toujours pas formé de gouvernement.
Écoutez, franchement, s'il faut encore les politiciens, ce sont deux incidents isolés qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Mais en réalité, au Liban, c'est-à-dire que les coïncidences sont rares. Donc, il est certain que la plupart des gens pensent que c'est peut-être une sonnette d'alarme qui est tirée, que s'il n'y a toujours pas de solution, s'il n'y a toujours pas de gouvernement, peut-être que ça pourrait déraper sur le terrain et que les ingrédients sont là. Enfin, les facteurs de division sont toujours présents. On ne peut pas encore dire vraiment avec fermeté que les incidents sont liés, qu'il y a vraiment des troubles confessionnels, mais c'est certain qu'il faut être très vigilant parce que toutes les possibilités sont là.
Georges Malbruno, ces incidents, qu'est-ce qu'ils vous inspirent ?
Ce sont sans doute des incidents isolés parce que, comme vous le savez, le Liban est la caisse de résonance des tensions régionales. Or, actuellement, on l'a vu cette semaine avec la visite du roi Abdallah d'Arabie en Syrie. On l'a vu il y a une dizaine de jours avec la rencontre irano-américaine et européenne à Genève. On a quand même l'impression qu'à travers ces rencontres, il y a un apaisement, une détente qui s'est instaurée. Et donc, je vois mal que les différents intervenants et acteurs libanais télécommandés en coulisses par leurs parrains se lancent dans un affrontement. Donc je pense que ça fait partie peut-être effectivement, comme l'a dit Scarlett, de cette surenchère un petit peu qui précède la formation du gouvernement libanais, d'ultime tractation pour passer en force.
Hassan Dili ?
Je pense que ces tractations vont se poursuivre pour un certain temps, parce que ce qui est certain aujourd'hui, c'est que cet accord clair, pas seulement tacite, entre les Saoudiens et les Syriens, je pense que effectivement, c'est pour se manifester, pour dire bon, on est là, et chaque partie, comme disait Georges, on reçoit quelques consignes des parrains, et maintenant, on va effectivement plancher sur le sujet, mais à mon sens, le gouvernement dont vous parlez ne sera pas formé demain, parce qu'il va y avoir encore des tractations.
Beaucoup à faire encore. La visite, justement, vous l'évoquez à Damas cette semaine, du roi Abdallah d'Arabie Saoudite, devrait permettre d'atténuer les tensions au Liban, c'est du moins ce qu'espèrent les plus optimistes. C'est la première visite officielle en Syrie du souverain saoudien après des années de glacis, Scarlett Haddad. Comment vous percevez cette visite depuis Beyrouth ?
C'est-à-dire que tous les Libanais ont les yeux fixés sur les résultats de cette visite, qui n'ont pas encore vraiment filtré en ce qui concerne le dossier libanais. Mais ce qu'il faudrait dire d'abord, c'est que le Liban n'est pas le seul dossier qui a été examiné. Il y a aussi l'Irak, la Palestine, etc. Mais en ce qui concerne le Liban, bon, est-ce que les Saoudiens et les Syriens sont les seuls joueurs, sont les seuls pays qui ont une influence sur les Libanais ? Donc, visiblement, les deux dirigeants se sont prononcés en faveur d'un gouvernement d'union. Normalement, ça devrait marcher. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il y a toujours ces facteurs de déstabilisation qui existent? C'est qu'ils ne sont pas les seuls à décider au Liban. Ils ne sont pas les seuls à avoir une influence. Et donc, ce n'est pas encore sûr, ce n'est pas garanti. Les Libanais espèrent que ça va donner un élan positif, mais je ne pense pas que ce soit suffisant pour aboutir à la formation d'un gouvernement dans les prochains jours.
Vous êtes d'accord, Georges Malbruno?
Oui, je crois qu'il ne faut pas attendre de retombées immédiates de cette visite, simplement parce que ce serait trop facile de dire voilà, il suffit que qu'Abdallah se rende à Damas pour qu'on voit qu'immédiatement, en fait, ce sont eux qui tirent les ficelles, ce qui est plus compliqué que ça. Simplement, cette visite, comme vous l'avez dit, c'est la première depuis qu'Abdallah est roi d'Arabie. Elle vient après un climat de tension extrême entre l'Arabie et la Syrie, l'Arabie ayant accusé les Syriens d'être derrière l'assassinat de Rafik Hariri, les Syriens accusant les Saoudiens d'avoir inondé le Liban en armes et en argent au profit des leurs alliés sunnites partisans de Saad Hariri ou les salafistes. Donc cette visite va quand même permettre, devrait permettre d'apaiser un certain nombre de contentieux. Sur le Liban, quand même, on peut penser que tôt ou tard, eh bien, le gouvernement sera formé. Il y a également sur l'Irak, peut-être, mais là, c'est plus compliqué actuellement.
Sur le Liban, précisément, à Sainte-Livie, et la visite de Abdallah.
Moi, je pense que, effectivement, cette visite est très importante pour l'avenir du Liban. Au Liban, il y a des acteurs internes et des acteurs qui viennent de l'extérieur. Et tout le monde sait que, pratiquement, il y a trois pays qui influent sur les décisions internes au Liban, dans la région, qui sont la Syrie, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et c'est vrai que de par les relations que les Syriens ont aujourd'hui avec les Iraniens, de par cette entente et cette nouvelle page qui s'ouvre entre les Saoudiens et les Syriens, je pense que effectivement, par rapport à la réalité, par rapport aux événements sur le terrain, ils sont quand même à même de pouvoir influer sur les décisions internes. Bien sûr, il y a d'autres partis, bien sûr qu'il y a la France, bien sûr qu'il y a les États-Unis, mais je pense qu'il faut être pratique, et le pragmatisme syrien, saoudien, iranien ferait que il faut qu'il y ait des résultats, pas peut-être tout de suite, mais des résultats, on les verra, bien sûr, à moyen terme.
Georges Malbruno, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, simplement dire que à travers cette visite, je crois qu'on voit que l'Arabie Saoudite, comme la France d'ailleurs avant, déconnecte ses relations avec la Syrie, des relations que la Syrie entretient au Liban. On voit bien que aujourd'hui la France, donc, est depuis un an dialogue avec la Syrie, et sa relation Paris-Damas est déconnectée, si je puis dire, de la relation Damas-Beyrouth, et les Saoudiens finalement ont été obligés de se rallier à cette position réaliste qui est aussi à des degrés divers ou avec des différences un petit peu celle que les Américains essaient d'entretenir aujourd'hui, enfin de renouer avec la Syrie. Et donc on a assisté, je pense qu'aujourd'hui, Saoudiens et Syriens sont d'accord pour coopérer au Liban plutôt que de s'y affronter. Donc c'est quand même une note d'optimisme.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Riyad et Damas ont été en profond désaccord ces dernières années, pas seulement sur le dossier du Liban, sur la guerre en Irak, ainsi que sur l'Iran. Certains ont vu une volonté du camp occidental relayée par les alliés saoudiens, notamment une volonté de déconnecter la Syrie du Liban, en gros de creuser un fossé entre Damas et Téhéran, vous le voyez comme ça
C'est un secret de polichinelle que de dire que un des objectifs, notamment de la France qui a renoué avec la Syrie il y a un an, eh bien, c'est d'essayer de réintégrer la Syrie dans le giron arabe. D'ailleurs, les Syriens, Walid Mouallem, lors de son passage à Paris il y a 10 jours, l'a dit clairement. Pourquoi on s'est pas jeté dans les bras? Parce que l'alliance syro-iranienne est ancienne, elle est forte. Mais en 2005, lorsque l'Occident, lorsque la France, lorsque l'Arabie Saoudite, les Occidentaux, les États-Unis ont décidé de marginaliser la Syrie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a renforcé son alliance avec l'Iran. Donc aujourd'hui, effectivement, avec ce retour en grâce de la Syrie, l'Occident, l'Arabie Saoudite, la France et les États-Unis aimeraient, lui font passer des messages aux Syriens en disant « il faut vous détacher de l'Iran ». Je crois que, comme je le disais, l'alliance entre la Syrie dit très bien, elle est inquiète d'une éventuelle opération armée israélienne contre l'Iran, mais cette alliance syro-iranienne, elle est ancienne et elle est forte, et la Syrie ne va pas s'en délier sans des gestes très très forts et sans des concessions très très fortes. Simplement, il y a une volonté, un désir syrien peut-être de se repositionner. La Syrie excelle dans l'art de jouer sur plusieurs tableaux et peut-être finalement de ne pas choisir.
Scarlett Haddad, comment vous percevez cette situation autour de la Syrie aujourd'hui, ce déploiement diplomatique?
Moi, je crois que l'Occident pense effectivement pouvoir détacher la Syrie de l'Iran, mais à mon avis, c'est une vue de l'esprit. C'est totalement utopique parce que les liens qui existent entre les deux pays sont trop étroits. Il y a plusieurs aspects à ces liens. Il y a à la fois économique, stratégique, etc. Mais moi, je pense qu'il y a aussi des désaccords. Le fait qu'ils soient alliés n'empêche pas les désaccords, notamment sur le dossier irakien, comme on l'a vu récemment avec les attaques du premier ministre irakien contre la Syrie, où il y avait certainement un rôle iranien dans ces attaques. Mais cela ne signifie pas qu'ils vont se détacher. Moi, je crois que la Syrie sait faire un jeu d'équilibriste très subtil et qu'elle a renforcé ses liens avec la Turquie pour un peu contrebalancer les liens avec l'Iran. Ce qu'on dit au Liban, c'est que c'est sur un conseil du premier ministre turc que le président syrien s'est rendu en Arabie Saoudite, ouvrant une nouvelle page dans les relations avec l'Arabie Saoudite. Donc il y a certainement un repositionnement, mais tout est relatif. pour la Syrie, il n'est pas question de rompre ses liens avec l'Iran seulement. Il y a maintenant une nouvelle marge, si vous voulez. Et comme l'Occident est coincé, l'Arabie Saoudite aussi, tout le monde est content et tout le monde est prêt à accueillir la Syrie les bras ouverts. Mais au fond, je crois que personne ne se fait trop d'illusions.
Alors sur le conflit palestinien, les deux pays, l'Arabie Saoudite et la Syrie, ne sont certainement pas totalement étrangers, vous allez me dire si j'ai raison, au processus de réconciliation interpalestinienne qui est en cours. On parle d'un accord entre le Hamas et le Fatah, peut-être dans les prochaines semaines. Le Hamas traîne les pieds. Qu'est-ce que vous en pensez, Georges Malbruno ?
L'Arabie Saoudite, d'ailleurs, je crois que c'était en 2006 ou 2007, avait œuvré à une réconciliation. Elle y était pratiquement parvenue et finalement, cette réconciliation n'a pas eu lieu. Et elle n'aura pas lieu prochainement, contrairement à ce qui a été annoncé, tout simplement parce que le Hamas n'y a pas intérêt. La stratégie occidentale d'isoler le Hamas est un échec patent. Le Hamas, contrairement à ce qu'on espérait, ne s'est pas affaibli, mais il s'est plutôt renforcé. En tout cas, à Gaza, il a de l'argent, il a de nouveau des armes, il a réussi à tenir le coup face à Israël, en tout cas donner l'impression. L'autorité palestinienne se complaît dans des négociations infructueuses. Donc, quel intérêt a aujourd'hui le Hamas de s'associer avec un mouvement, l'autorité palestinienne, le Fatah qui est divisé, dont on vient de voir encore que Abou Mazen, le patron de l'autorité palestinienne, était prêt à reporter les discussions sur le rapport Goldstone. Donc il n'y aura pas de réconciliation parce que ça n'est pas tout simplement dans l'intérêt du Hamas. C'est vrai que la Syrie peut faire passer des messages, les Saoudiens aussi, etc. Mais très concrètement, on avait dit que le 25 octobre au Caire, il y aurait des réconciliations sous l'égide du Caire, mais le Hamas vient déjà de dire qu'il n'y en aura pas parce que tout simplement il faut offrir un certain nombre de carottes au Hamas, et tant qu'on ne leur a pas offert ces carottes, je ne vois pas comment le Hamas pourrait s'engager dans un processus de réconciliation, d'autant qu'on va approcher d'une période électorale et que les positions vont se radicaliser.
Hassane Khlili, sur la position du Hamas confortée depuis quelques semaines, depuis quelques mois ?
Ce qui est sûr, c'est que compte tenu des événements actuels, il y a deux positions qui apparaissent de manière claire. Il y a une position occupée par Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, mais c'est une position où il est en train de la perdre complètement. Et tous les investissements qui ont été faits par les Occidentaux, par les Arabes dits modérés, dans le personnage de Mahmoud Abbas, sont en train vraiment de voler en éclats. Il y a les positions qui étaient occupées jusqu'ici par le Hamas, qui sont en train d'être renforcées dans la mesure où même le Hamas dit aujourd'hui aux Égyptiens, vous avez été floués par Mahmoud Abbas. Vous croyez qu'on était vos ennemis et tout ça, mais ce n'est pas vrai parce que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Et du coup, il faut retarder la réconciliation et à mon sens, elle n'aura pas lieu. Et là, encore une fois, on revient aux fondamentaux. Le vrai problème dans la région et le vrai levier, c'est le problème palestinien. Le problème, c'est qu'il y a tellement de désillusions aujourd'hui. On a beaucoup misé sur l'arrivée de Ehud Barak. On se rend compte aujourd'hui que Barack Obama, effectivement, ne donne rien aux Palestiniens dans la mesure où il est en train de reculer même sur des évidences. Aujourd'hui, les Palestiniens disent qu'il faut décoloniser. Tout le monde dit des colonies de peuplement. Ça, c'est un fait du 19e siècle. Mais on a l'impression que les Américains disent on peut avancer, mais on peut oublier cette question. Or, c'est le Hamas, effectivement, qui récolte tous les fruits de son investissement par rapport à cela. Le vrai problème, c'est que les Palestiniens souffrent. C'est-à-dire la population souffre.
Scarlett Haddad sur l'impasse autour du problème palestinien.
Oui, moi je pense que le rapport Goldstone est vraiment un cadeau inespéré pour le Hamas. Qui n'était
alors il faut
pas...
rappeler, hein, il faut rappeler ce qu'est le rapport Goldstone pour ceux qui l'auraient oublié. Hein. Il s'agit de ce fameux rapport d'un juge indépendant sur l'offensive militaire israélienne contre la bande de Gaza en janvier dernier. Un rapport qui parle de crimes de guerre de l'armée israélienne, voire même dans certains cas de crimes contre l'humanité. Hein.
Voilà. Donc c'est un cadeau inespéré pour le Hamas qui, à mon avis, n'était plus aussi fort qu'avant, surtout, et c'est pour ça qu'il avait accepté plus ou moins le processus de réconciliation, d'autant qu'il y a des élections en vue en janvier, donc il avait tout intérêt à aller dans ce sens et à parler d'ouverture. Maintenant, avec ce rapport-là, évidemment, c'est une aubaine pour lui et ça le conforte dans ses positions. Et maintenant, il est plus fort. Donc, il est plus fort populairement. Il y a aussi, mais il ne faut pas oublier que le Hamas n'est pas aussi une entité unique. C'est-à-dire, y a des nuances dans les positions du Hamas à Gaza, dans celle du Hamas, de la direction du Hamas dans les territoires occupés en Cisjordanie, et une autre dans le Hamas de l'extérieur qui est essentiellement basé à Damas. Donc il faut harmoniser tout ça pour aboutir à une position réelle. C'est pour ça que moi, à mon avis, ce n'est pas encore dit que le processus de réconciliation ne va pas continuer. En fin de compte, il ne peut pas ne pas continuer. C'est juste la carte de Mahmoud Abbas qui est une carte qui est grillée. Mahmoud Abbas ne sera pas le nouveau président d'autorité palestinienne en janvier si les élections se déroulent à la date prévue. Mais le Hamas, au contraire, veut ratisser l'âge, veut obtenir plus d'appui au sein de l'OLP. Et donc, c'est ça l'enjeu aujourd'hui.
Orient Presse sur RFI.
Nous sommes en compagnie de Scarlett Haddad de l'Orient Le Jour, qui est en ligne de Beyrouth, avec nous Georges Malbruno du quotidien Le Figaro et Hassan Tlili de RMC Doualia. Alors en tout cas, Barack Obama ne baisse pas les bras, on l'a vu, son émissaire George Michel s'est rendu une nouvelle fois dans la région. Il tente de relancer cet hypothétique dialogue entre Israël et les Palestiniens. Alors a-t-il plus de chances d'aboutir cette fois-ci que durant ses précédentes navettes, Georges Malbruno?
Je vois pas comment il pourrait aboutir, à moins qu'il sorte de son chapeau une carte pour l'instant qui était bien cachée. Les Américains, c'est vrai, se sont lancés dans cette offensive en mettant les cartes sur la table et en exigeant un gel de la colonisation israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Force est de constater qu'ils n'ont pas pu arriver à un résultat sur cette question. Et donc aujourd'hui, on se retrouve coincé. Et George Mitchell va devoir sans doute faire machine arrière. Les pays arabes, eux, qu'il aurait voulu impliquer, d'ailleurs intelligemment, dans un processus plus large, leur demandant des efforts, disent aujourd'hui à Mitchell, on peut pas faire ce que vous nous demandiez, de rouvrir des bureaux d'intérêts commerciaux israéliens au Qatar ou ailleurs, si déjà, au préalable, Israël n'accomplit pas un geste. Donc on est de nouveau dans une impasse. Et eh bien, elle est assez dangereuse parce que le processus de paix. Enfin, pourquoi parle-t-on d'ailleurs de processus de paix? Il n'y a plus de processus de paix. Mais la relance de ce processus de paix, elle paraît aujourd'hui largement hypothéquée.
Hassan Tlili, rapidement sur la marge de manœuvre américaine.
Elle est très étroite compte tenu des difficultés et compte tenu de la non reconnaissance d'évidence et surtout compte tenu du gouvernement actuel en Israël. Moi, je pense que probablement, après les élections prochaines israéliennes, on pourra éventuellement assister à une nouvelle dynamique qui pourrait relancer la paix.
Je crois qu'il faudrait d'abord changer le système électoral israélien, parce que tant que vous n'arriverez pas à faire émerger une majorité claire et stable, eh bien, il y aura un émiettement. Par conséquent, il n'y aura pas de majorité pour rétablir la paix. C'est sans doute le principal problème aujourd'hui en Israël.
Et il y a un travail aussi qui devrait être fait, à mon sens, auprès de l'opinion publique israélienne, parce que c'est la clé de voûte de toutes les solutions. Et ce travail n'a pas été fait, un travail pédagogique qui n'a pas été fait jusqu'ici, et par les Israéliens et par les Américains, à mon sens.
Scarlett Haddad, vous voyez les choses depuis Beyrouth. Pensez-vous que Barack Obama peut se permettre d'échouer brutalement, comme ça, au Proche-Orient, après avoir annoncé un changement radical de politique et une nouvelle stratégie?
C'est-à-dire, honnêtement, je pourrais vous dire que j'espère que non, qu'il ne va pas échouer aussi brutalement, ni échouer du tout. Mais franchement, les circonstances sont tout à fait défavorables à un déblocage. Au contraire, on n'a jamais été aussi dans une impasse aussi totale et qui renforce les positions hostiles au processus de paix dans le monde arabe. Il faut qu'il puisse faire quelque chose, mais je doute avec tous les problèmes qu'il a et tous les dossiers qu'il a sur le dos.
Oui, en effet, parmi ces dossiers, il y a celui de l'Afghanistan, alors que les pertes civiles et militaires atteignent des records. En ce moment là-bas, d'une part, le pouvoir local s'est considérablement affaibli du fait de fraudes massives. Les fraudes massives, vous le savez sans doute, au cours du dernier scrutin présidentiel. Et d'autre part, à Washington, à Barack Obama, qui a bien du mal à annoncer une nouvelle stratégie pour ce pays, à Sainte-Lily.
Tous les rapports qui ont été faits jusqu'ici sur la crise afghane concluent au constat suivant. Renforcer les positions de guerre et renforcer les positions des Occidentaux ne mènera à rien. Il faut une démarche multilatérale, multidimensionnelle, et la dimension qui porte sur le développement de ce pays est essentielle. Or, Jusqu'ici, rien n'a été fait dans le cadre de cette démarche. Et Obama, aujourd'hui, effectivement, est en train de téléphoner tous les jours pour essayer de consulter ses alliés, surtout occidentaux, les Européens et les autres, sur l'Afghanistan et sur le Pakistan. Mais il semble perdu, et je pense que s'il n'y a pas une volonté politique de la part des Occidentaux de discuter avec les talibans, ça ne marchera pas.
Oui, on a parlé de talibans modérés qui seraient éventuellement intégrés dans un processus de paix. On n'a rien vu venir jusqu'à présent. Scarlett Haddad, vous êtes à Beyrouth, dans le monde arabe. Hein, depuis le Liban, comment sont perçus les derniers développements de la situation en Afghanistan ?
Eh bien, ici, on pense que l'Afghanistan est en train, malheureusement, de devenir le bourbier irakien, enfin, ce qu'était l'Irak pour George Bush. Moi, je crois qu'il serait bon que les Occidentaux, enfin, que les Américains comprennent aussi que la seule force n'est pas la solution. Ce qu'il faudrait, c'est aussi que en même temps que les opérations militaires, il y ait des projets, plus de projets de développement pour convaincre la population afghane de l'importance du rôle de la force occidentale. Vous comprenez, c'est difficile pour eux. Eux, ils voient les bombes leur tomber sur la tête et ils ne comprennent plus rien. Ils pensent que tout le monde est des ennemis, alors que ça ne devrait pas être le cas. Je crois qu'il n'y a pas de solution sans dialogue, d'abord. Et puis, avec le dialogue, il faut des projets qui convainquent la population pour qu'il y ait une opinion publique favorable aussi à l'action des Occidentaux dans ce pays.
Alors, on va parler d'un pays dont on parle, hélas, très peu sur l'antenne, et pourtant, il s'y passe beaucoup de choses de dramatiques. Hein. Je veux parler du Yémen. Les combats font rage dans le nord entre la rébellion zaïdite, qui est une composante des chiites, et les forces gouvernementales, tandis que dans le sud, les velléités séparatistes s'expriment massivement et dans la rue. Le pays est vraiment en danger, Georges Malbruno.
Ah oui, c'est, comme vous dites, c'est un pays dont on ne parle pas, mais c'est une véritable pétaudière, si vous me permettez l'expression, parce que vous avez donc les menaces de sécession au sud qui ont été relancées l'été dernier. Vous avez cette guerre civile au nord, à Saada, oublié, qui a fait des centaines de morts, des milliers de déplacés depuis 2004. Vous avez Al-Qaïda qui s'est reconstitué, qui a fusionné avec la branche saoudienne et qui profite, si vous voulez, de la faiblesse de l'État central yéménite pour marquer son territoire, pour se cacher. Le Yémen, c'est vraiment, pour Al-Qaïda, justement, Ben Laden l'avait dit à la fin des années 90, il a dit, si un jour je devais quitter l'Afghanistan, j'irai au Yémen, parce que vous avez les mêmes caractéristiques, un État central faible qui contrôle à peu près Sanaa et c'est tout, des tribus fortes et indépendantes qui ont des armes et vous avez des grottes pour vous cacher. Donc tout ça fait que la situation de ce pays, qui est quand même le pays le plus pauvre des pays du Moyen-Orient, le plus instable, cette instabilité commence à inquiéter notamment l'Arabie Saoudite. Ça ne vous a pas échappé que l'attentat contre Mohamed Bin Nayef fin août a été perpétré par un Saoudien d'origine yéménite qui venait du Yémen. Donc la question aujourd'hui qu'il faut se poser, que les responsables du Golfe commencent à se poser, c'est savoir comment est-ce qu'on peut aider le Yémen à sortir de cette pétaudière, c'est-à-dire il va falloir investir de l'argent, faire en sorte que l'économie du Yémen eh bien, puisse repartir, sans doute aussi collaborer en matière de sécurité. Mais on est vraiment devant un cas de figure très inquiétant, parce qu'il y a un risque de somalisation. Hein, donc,
oui, j'allais vous parler du syndrome somalien.
Existe au Yémen, et puis vous avez, sur les 240 prisonniers actuellement détenus à Guantanamo, vous avez 97 yéménites. Donc il y a un terreau, c'est la patrie ancestrale d'Oussama Ben Laden, il y a un terreau djihadiste et les djihadistes profitent justement de cette faiblesse de l'État yéménite pour s'implanter, et c'est pas tout à fait un hasard si donc aujourd'hui la branche d'Al-Qaïda d'Arabie Saoudite s'est repliée sur le Yémen, profite de la porosité de la frontière, des grottes, pour se cacher et ensuite s'infiltrer, rentrer en Arabie Saoudite et perpétrer des attentats comme on a vu fin août contre Mohamed Bin Nayef.
Hassan Khalili, sur le Yémen.
La manière dont se pose aujourd'hui le problème yéménite inquiète énormément les pays du Golfe, surtout les pays du Conseil de coopération. Le Yémen a été toujours exclu de cette enceinte. C'était une erreur tactique et stratégique. Et je crois que maintenant, les chefs d'État de cette enceinte régionale sont en train de penser vraiment à intégrer, comme disait Georges, à l'avenir, d'une manière ou d'une autre, le Yémen. Avant, le Yémen était perçu à l'extérieur comme étant un beau pays où les touristes se font kidnappés, où ils passent des jours et des nuits vraiment extraordinaires avec l'esprit de la Médina entre les tribus. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus grave que ça. Il y a un pouvoir central affaibli où il n'existe pratiquement plus. Il y a la rébellion au nord qui commence vraiment à prendre de la force. Et il y a surtout
les
le
séparatistes.
Sud. Et le sud, parce que ça, ne l'oublions pas. Le sud peut devenir demain vraiment le bourbier, le cœur du bourbier yéménite.
Scarlett Haddad, comment vous voyez la situation au Yémen, cette détérioration tout de même grave?
Ben, avec beaucoup d'inquiétude, parce que pour nous, le conflit au Yémen a aussi une dimension entre sunnites et chiites. Vous savez que les Houthis sont des chiites, et donc ça pourrait laisser présager d'une extension du conflit entre sunnites et chiites à la plupart des pays de la région, notamment le Liban. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le Yémen a fait partie, dit-on, d'un des dossiers les plus brûlants qui a été examiné par le roi Abdallah et le président syrien Bachar el-Assad. Donc c'est un dossier très important qui risque de faire tache d'huile et qui inquiète beaucoup le Liban et les autres pays arabes.
Georges Mabruno, vous vouliez ajouter quelque chose sur le Yémen ?
Une nouvelle fois, donc, comme on l'a dit, la solution viendra des voisins du Yémen qui devront mettre la main au pot pour favoriser le développement de ce pays. Les autorités yéménites aussi qui jouent quand même un jeu pour le moins double souvent et qui cherchent à exploiter ses faiblesses pour obtenir un petit peu des subsides internationaux. Mais c'est une, je veux dire, c'est un pays, il y a quand même des investissements étrangers. Il y a Total qui a son plus grand projet dans le Golfe, mais qui a de gros problèmes sécuritaires à partir de Balaf dans le sud. Et donc, c'est quand même un sérieux souci pour les Occidentaux, parce que justement, on est en face de la Corne de l'Afrique, il y a le phénomène de la piraterie, il y a la Somalie en face, c'est un pays de transit. Donc, c'est quelque chose, comme le disait notre ami, qui inquiète sérieusement les responsables des pays du Golfe, les responsables sécuritaires et les Occidentaux aussi, les Américains en premier lieu.
Oui, région hautement stratégique. Alors ainsi s'achève Orient Presse. Hein. Merci à vous trois, à Scarlett Haddad de l'Orient le Jour, à Georges Malbruno du quotidien Le Figaro, à Sainte-Lily de RMC Doualien. Merci à Jean Legrand pour la réalisation, à Pascal Bungo pour la technique. Prochain rendez-vous avec Orient Presse, samedi prochain, même heure, même fréquence sur RFI.